Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Aujourd'hui, Martin discute avec un autre visage connu de la télévision, François Beauregard.
Si vous connaissez minimalement mon invité, quand vous allez entendre son nom, vous allez peut-être penser qu'on va parler de finances. Évidemment, sûrement qu'on va en parler un peu, mais c'est sûr qu'on ne parlera pas que de ça. Tout d'abord, je vais dire bonjour à mon invité qui est encore une fois à distance cette semaine pour les raisons que vous connaissez tous. Il s'appelle François Beauregard. Tout d'abord, bonjour.
Bonjour, monsieur. Bonjour Martin, ça va bien?
Oui, là je viens de dire, ce que je dis monsieur Beauregard, François, on n'a pas stipulé vraiment là-dessus avant de commencer.
Oui, c'est correct, moi ça me dérange pas, j'ai tendance à utiliser le prénom puis à vous voyez les gens.
OK, d'accord, bon ben parfait. Donc ça va bien, merci beaucoup de vous prêter au jeu de mon entrevue cette semaine, ça me fait vraiment plaisir de vous avoir avec nous. Et si vous connaissez un peu le projet, vous savez aussi que le but, c'est de faire un peu un portrait de vous. Donc, j'aimerais ça, si vous êtes d'accord, qu'on commence par le commencement, c'est-à-dire à peu près à la naissance. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous êtes né à quel endroit?
je suis né le 25 août 1958.
OK.
Pardon, je suis né le 25 août 1958 à Montréal. Je suis le quatrième d'une famille de quatre enfants.
OK, donc le petit dernier.
Le petit dernier, voilà, exact, tout à fait. Alors, j'ai grandi à Outremont.
OK.
Pas loin d'Outremont, pas loin de l'Université de Montréal. On avait déménagé. Pardon, on a déménagé quelques fois là, pendant mon enfance. Mon père est décédé quand j'étais assez jeune. J'avais 9 ans quand il est décédé.
OK.
Alors, ma mère, très courageusement, a élevé 4 enfants seuls en travaillant, puis en voyant nous donner une bonne éducation, puis à nous envoyer dans des collèges ou des écoles pas loin de la maison, puis il n'était pas question de nous placer comme pensionnaires. Donc, j'ai d'une famille essentiellement de 5, là, ma mère, parce que je n'ai pas connu quand même beaucoup mon père, ma mère, puis mes deux frères, ma sœur. On est une famille assez unie. On n'est pas une famille collante. Hein. On se voit pas comme à tout bout de champ. Là. On se voit peut-être 3 ou 4 fois par année ou 5 fois. Mais on est très unis. On prend soin l'un de l'autre. Là, puis on est assez... Il n'y a jamais eu de conflit.
De grosses mésententes.
Non, jamais, jamais. Du tout. Ça a toujours bien été.
Et est-ce qu'il y a beaucoup de... Est-ce que vous suivez pas mal en âge? Là? Est-ce que c'est pas mal proche?
Mon frère est né 8 ans plus âgé. Mon deuxième frère est 6 ans plus vieux que moi. Ma soeur est 4 ans plus âgée que moi.
OK.
Alors, ils sont nés en 50, 52, 54. Là, il y a eu un trou, puis moi, je suis né en 58.
OK, d'accord. Et vous, votre problème de vision, est-ce que ça date de l'enfance?
Moi, je fais de la rétinite pigmentaire, qui est une maladie héréditaire, c'est un problème génétique. Alors, je fais de la rétinite pigmentaire et ma sœur et mes deux frères aussi ont de la rétinite pigmentaire. Les 4 enfants chez nous, on a le même problème.
Okay.
Ça a été identifié il y a quelques années par le docteur Conicoop. Robert Conicoop, qui travaille à McGill. Après des recherches, il a identifié qu'on avait le syndrome Usher 2A. Ce que je crois comprendre, c'est que pour que les 4 enfants chez nous, on ait tous les 4 le même problème génétique, il fallait que mon père soit atteint de rétinite et que ma mère soit porteuse.
Okay.
Parce que d'un point de vue génétique, à ce que je crois comprendre, peut-être que quelqu'un va intervenir, va dire non, François, tu n'as rien compris, mais ma compréhension du problème, c'est qu'il fallait que malheureusement, un père qui faisait de la rétinite et une mère qui était porteuse du gène fasse 4 enfants pour que les 4 on ait de la rétinite. C'est assez rare que les 4 dans la maison font de la rétinite.
C'est ça, hein? Puis vos parents...
Mon père est décédé assez jeune, il est décédé à 42 ans Alors, non, il n'a jamais été diagnostiqué comme quoi il faisait de la rétinite. Alors, c'est juste des anecdotes que ma mère nous raconte, nous a raconté, se souvenant que mon père avait tendance à manquer les chaînes de trottoir ou à manquer les marches dans les escaliers ou des choses comme celle-là. Qui peut-être indiquerait que oui, à la fin de sa vie, quand il avait 40-42 ans, il commençait à avoir une rétinite. Le grand-père de mon père est allé au Klondike comme chercheur d'or.
Okay.
Et il est revenu à Chambly, près de Montréal. Ça, c'est au fin du 19e siècle. Et quand il est revenu, il était forgeron. Et quand il est revenu, il a commencé à perdre la vue. Et à la fin de sa vie, il était, à partir de la quarantaine ou de la cinquantaine, il avait vraiment une très mauvaise vue, puis il n'était plus capable de travailler comme forgeron.
OK, ça que ça s'est comme déclaré.
Et ce monsieur-là était marié avec l'institutrice du village. Et il a eu 8 garçons. Mon grand-père paternel est le plus jeune des 8. Il n'y a pas d'autres personnes qui ont souffert de cécité ou qui sont devenues aveugles ou qui ont eu un handicap visuel assez évident pour que on en parle, à part de mon père, de façon anecdotique, et son grand-père. Alors, c'est comme un gène récessif là, qui saute des générations et qui réapparaît. Alors, les 4 chez nous, on fait de la rétinite, oui. On a ça en commun.
OK. Et dans votre cas, à vous, ça s'est manifesté comment? Est-ce que
c'est plutôt... ça a commencé, puis c'est un peu le même pattern qu'il y a eu pour ma soeur et mes 2 frères.
OK.
C'est plus à l'adolescence que ça a commencé à... J'allais au camp de vacances quand j'avais 16-17 ans, comme campeur, puis après ça, comme conseiller. Puis quand on faisait quand on était dans la forêt, puis il commençait à y avoir de la pénombre, j'avais de la misère à suivre les autres. Là. Je ne pouvais pas avancer aussi vite dans les sentiers. Je commençais à avoir de la misère à m'y retrouver. Même avec une flashlight qui faisait comme juste un petit rond jaune par terre. Là.
C'était pas suffisant.
Puis je m'apercevais que ma vision nocturne n'était pas bonne. Puis mon frère aîné, Michel avait aussi remarqué que sa vision nocturne était plus vieux, il était comme au milieu de la vingtaine. Il avait remarqué que sa vision nocturne aussi commençait à se détériorer. On a tous les 4 découvert à peu près au même temps. On vivait pas. Mon frère aîné habitait à Paris déjà, puis chacun un peu de notre bord, on a commencé à consulter des ophtalmologistes, là, puis. Moi, c'était en 1986, alors que j'avais 28 ans, que j'ai commencé à m'apercevoir. Je conduisais une auto à ce moment-là.
Ah oui, OK.
Puis, je conduisais, puis je m'apercevais que quand je faisais des stops, puis je repartais, je ramassais les piétons, hein, parce que je les avais pas vus traverser la rue devant moi de gauche à droite ou de droite à gauche. Alors, c'est arrivé une couple de fois là, au centre-ville, là. Là, il y a un piéton, là, vraiment pas content, qui commençait à taper à coups de poing sur le capot de l'auto. Là.
Mm.
Puis tous les gens qui étaient genre Sainte-Catherine, du monde, là, sur le trottoir, alors, tout le monde commençait à faire un attroupement autour de mon auto. Là,
voyons donc.
Ouais, c'est ça. Là, une autre fois, j'ai buté dans une vieille dame dans le métro aussi, une fois, en montant un escalier. Et là, elle commençait à me taper dessus à coups de parapluie.
Voyons donc.
Puis, je me suis aperçu que je commençais à pas bien voir, OK? Je conduisais au son à la fin, quand les pneus à droite étaient dans l'accotement, là, puis ça commençait à rouler dans le gravier, ça, je savais que j'étais trop à droite.
Ouais.
Mais il fallait pas que j'aille trop à gauche, parce que là, j'avais peut-être des autos qui tendaient dans l'autre sens. Alors, de toute évidence, il y avait un problème. Alors, j'ai consulté. Ma sœur, je pense, m'avait dit, dans cette période-là, elle était 86, qu'elle avait été voir son ophtalmologiste. Il lui avait dit qu'elle faisait de la rétinite. Puis, moi, je suis allé voir le mien. C'était à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Là, il a pris des photos du fond de l'œil, tout ça. Là, il m'a regardé très sérieusement. Il dit, vous conduisez encore? Je dis, oui, mais juste le jour. Maintenant, la nuit, j'ai de la misère. Là, il m'a regardé. Il me dit, non, là, vous ne conduisez plus du tout.
Oh. OK.
Ouais, là, c'était comme sérieux. Puis, ça a donné à peu près ma date d'anniversaire quand on reçoit notre renouvellement de permis de conduire. Et il y avait un questionnaire, puis là, est-ce que vous portez des verres correcteurs? Oui. Est-ce que vous avez une autre pathologie de l'œil? J'ai répondu oui, puis là, j'ai ajouté le J'ai joint le rapport de mon ophtalmologiste à l'hôpital. Là. C'est le docteur Saint-Hilaire, il me semble, à Maisonneuve-Rosemont. Tout ça pas plus tard. En fait, assez, c'est curieux parce que c'était en mois d'août 86. Ils m'ont envoyé une gentille lettre pour dire que mon permis était suspendu 6 mois plus tard.
Ah, d'accord.
Alors, j'avais comme 6 mois pour renverser des gens puis frapper des piétons. Mais j'ai pas fait ça. J'ai conduit une auto pour la dernière fois le 9 septembre 1986.
OK.
Ça, je m'en souviens. J'ai fait 500 km cette journée-là, accompagné de quelqu'un qui surveillait tout ce que je faisais, puis c'était des routes de campagne.
OK.
Il y avait personne.
Il y avait moins de risques.
Je suis revenu à la maison, j'ai mis les clés de l'auto sur la table, puis j'ai dit, parfait, je conduis plus, c'est fini. Voilà. Alors, la rétinite, c'est une maladie dégénérative. Alors, ça continue à progresser. Depuis ce temps-là, ma vue a continué à imploser. Je suis chanceux. Mon champ visuel est restreint. Là. Je suis en deçà de 5 degrés de champ visuel. Mais le peu qui me reste est encore net.
OK.
Alors, ce qui est un peu, je dirais, parfois, je peux ne pas avoir l'air handicapé visuel. Si je n'ai pas à me déplacer, là, si je suis assis puis je suis au théâtre, je suis capable de voir ce qui se passe sur la scène. Je vais au Centre Bell, je regarde un match de hockey, je suis capable de suivre si je suis assez loin de la glace.
OK, de suivre l'action.
Je suis capable de lire le tableau indicateur, pardon?
J'ai dit, vous êtes capable de suivre l'action sur une scène.
Je suis capable de voir le tableau indicateur. Dans les cinémas, je me tiens complètement en arrière, plutôt du côté gauche, parce que le champ visuel n'est pas symétrique. Là. Mon œil gauche, il y a moins de champ visuel à gauche qu'à droite. Mais je suis encore capable de voir des choses assez claires. Je suis capable de voir le nom des rues sur les affiches ou le numéro de l'autobus qui s'en vient au coin de la rue.
OK.
Tout ça, je suis capable de le lire. Mais ça continue de diminuer parce que j'avais 10-11 degrés de champ visuel il y a à peu près 6-7 ans. Là. Puis là, je suis rendu en 35. Puis la vision centrale a commencé à vibrer et à avoir des pixels qui ne sont pas tout à fait fixés. Alors, je sais que ma vision centrale s'en va tranquillement. Mon frère, qui est 8 ans plus âgé que moi, lui, il n'est pas capable de voir sa main là, devant lui. Là.
Oh là là,
ça fait une ombre. Il voit sa main bouger, puis ça fait une ombre, mais il n'est pas capable de compter, de distinguer ses doigts. Mon frère, qui est 6 ans plus âgé que moi, lui, il voit moins bien que moi, mais c'est comme le deuxième moins ennuyé de la famille. Ma sœur, qui est 4 ans plus âgée, qui est en fait celle qui est immédiatement là, avant moi dans la fratrie, elle voit vraiment plus grand-chose. Un T-shirt noir, un T-shirt blanc, là, ça ne fait pas de différence.
Ah non, à ce point-là, OK. Au niveau des couleurs.
Oui, ce qui fait que donc le développement de la rétinite dans la famille n'est pas exactement à la même vitesse.
C'est ça, hein?
Je ne sais pas. Peut-être que dans 6 ans d'ici, je vais voir ce que mon frère 6 ans plus âgé voit. Peut-être que dans 4 ans d'ici, je vais voir rien du tout comme ma sœur qui est 4 ans plus âgée que moi. Je ne sais pas. Je sais pas à quelle vitesse ça.
C'est ça, on peut pas vraiment se.
C'est qu'à la fin de la vingtaine, début de la trentaine, là, je voyais assez mal qu'il fallait plus que je conduise. À l'andropause, à la fin de la quarantaine, début de la cinquantaine, ma vision s'est comme détériorée d'un coup un peu. Ça aussi, c'est assez typique d'un pattern de rétinite, là. Fin de l'adolescence, fin de la vingtaine, fin de la quarantaine, ça a tendance à être ces moments-là où des fois ça se détériore plus, en tout cas.
OK, il y a comme des phases un peu là.
Ouais,
plus,
mais c'est pas tout le monde, hein, parce que il y a des dizaines et des dizaines de problèmes génétiques ou de mutations génétiques qui entraînent la rétinite. Il n'y a pas une rétinite, il y a beaucoup de formes de rétinite.
C'est ça.
Il y a des gens qui naissent avec vraiment très peu de vision parce qu'ils ont une rétinite qui s'éclaire très, très vite dans leur vie. Il y en a d'autres où c'est dégénératif comme moi. Ça vient par bourré. Hein. Alors, voilà, c'est là qu'on est.
Mais histoire là, de faire un portrait un peu plus précis, là, parce que, bon, à l'enfance...
Je vous ai parlé de mon handicap visuel. Là.
Oui, voilà. C'est ça. Mais comme à l'enfance, vous n'aviez pas de répercussions encore de ça?
Oh non, du tout. Comme je vous dis, je ne me suis pas vraiment aperçu avant d'avoir 16-17 ans. Là. Dans des circonstances bien
précise, là, dans la noirceur.
Bien précise, comme étant dans la forêt le soir. Mais si j'étais dans des maisons bien éclairées ou si je me promenais sur la rue en ville, là, ça ne me dérangeait pas. J'ai eu mon permis de conduire quand j'avais 16 ans.
C'est ça. Mais quelle sorte d'enfant que vous étiez? Est-ce que vous, vous étiez beaucoup très actif, jouez beaucoup
ben,
dehors.
Dans la famille, j'étais celui qui était le plus sportif, là, qui jouait le plus, là, oui.
OK.
Le plus kinétique, hein, je dirais, le plus kinétique de la famille, voilà.
OK.
C'était celui qui bougeait plus. Je fais encore du sport. Je suis des quatre de la famille, celui qui a fait le plus d'activité physique, là. Oui, ça, c'est sûr.
OK.
Plus les autres. Des fois, je pense que le fait d'avoir fait beaucoup de, et encore de faire du sport, ça a favorisé ma proprioception, là. De me situer dans l'espace ou d'être capable de tourner la tête ou de bouger les yeux ou de compenser pour la vision qui se détériore, là, en faisant autre chose.
Ben, on donne beaucoup de vertus.
J'étais un peu tannant, là.
Ouais.
Tous les enfants sont tannants. Je faisais pas beaucoup de mauvais coups. Puis j'étais. Tous les quatre à la maison, on était bons en classe.
OK.
OK. On était une famille de première classe.
Que vous aimiez l'école, que c'était pas comme
oui,
un.
Tout à fait. Oui, oh, j'aimais l'école, j'aimais lire. J'aimais lire les encyclopédies, là, avoir des collections de timbres.
Ah oui, lire les encyclopédies, hey, ça c'est.
Oui, oui, mais mon frère est né, mon frère Marc, qui est 10 ans plus âgé que moi, là, il était aussi assez encyclopédique. Là. Je pouvais arriver à côté de lui avec une encyclopédie, puis je mettais ses genoux, puis je disais « compte ». Ça voulait dire « lis-moi l'encyclopédie ».
Fais-moi la lecture, là.
Oui, dis-moi, lis, parce que je n'étais pas trop jeune, j'avais peut-être 4 ans ou 5 ans, mais je voulais qu'il me lise une encyclopédie. Mais lui-même, il aimait ça.
OK.
Oui, je viens d'une famille où le savoir était valorisé, où les études étaient valorisées. Pas de pression aussi, on n'avait pas un bon bulletin, là, c'était pas la catastrophe. Mais le fait d'avoir des connaissances, on serait tous très bons à géopardé dans notre famille.
C'est
ce genre-là. D'ailleurs, okay. j'ai gagné à Géopardy, dans l'émission Géopardy de Télémétropole au début des années 90.
Vous avez été concurrent à cette émission-là?
Oui, à Géopardy, oui, puis j'ai gagné 5 émissions de suite, oui. Exactement.
Ah oui? Okay. C'est 5 émissions de suite.
Ben oui, c'est ça. Mais en fait, c'est tout enregistré le même week-end, là, mais oui, c'est 5 émissions de suite.
C'est-à-dire que vous avez passé la fin de semaine...
Avec M. Réal Giguère, qui était l'animateur.
Ben oui, je me rappelle vaguement...
90-91, dans ce coin-là.
Oui, oui, ça jouait sur l'heure du souper, là, ben, vers 6h30.
6h30, exact.
Oui. Je me souviens.
Oui, j'ai participé à plusieurs émissions. Enfin, alors, quand j'étais petit, oui, j'étais bon en classe. Mes frères aussi. Là. Ma sœur avait plus de misère en maths, mais elle était bonne dans les autres matières. Puis, voilà, donc, j'ai été au Collège Brébeuf. J'étais là du secondaire 1 au collégial. J'étais là 7 ans à Brébeuf. Pendant que j'allais à Brébeuf avec les Jésuites, l'été, je passais mon été au camp Tekakwitha, qui est un camp dans le Maine, qui est en fait, ou qui existe encore aujourd'hui, où en fait les campeurs sont du Québec et les conseillers, le personnel vient aussi du Québec. Mais ils étaient sur un terrain qui appartenait au père dominicain de Lewiston, dans le Maine. Alors, l'été, j'étais avec les dominicains, puis l'hiver, j'étais avec les jésuites. Alors, j'ai appris d'une part à aimer la nature et deuxièmement à argumenter. Alors, les dominicains aiment la nature, puis les jésuites répondent toujours à vos questions par une autre question. Hein, c'est ça.
Puis de là, d'être bon à Géopardy aussi.
Peut-être, oui, voilà. Puis au collège, j'ai fait beaucoup de sport.
Oui.
J'ai été au camp, je faisais beaucoup de sport aussi. Alors, j'étais gâté pour ça. J'avais eu une très belle adolescence avec assez encadré, parce qu'au collège, on est encadré, puis au camp de vacances aussi. Au camp, au début, j'étais campeur, les 4 premières années, les 3 suivantes, j'étais conseiller.
OK.
Mais c'est là que j'ai appris à aimer la nature, puis à me promener dans le bois, puis à faire de la randonnée, puis à faire du hiking, puis à l'Appalachian Trail, qui est la piste de randonnée qui va de la Géorgie jusqu'au nord du Maine. Ça, j'y étais souvent. À l'âge adulte, après ça, avec mes amis, j'étais là souvent. Le mont Katahdin, qui est dans le nord du Maine, qui est le plus haut sommet de l'Est de l'Amérique du Nord. Une montagne magnifique dans le parc Baxter, parc de l'État du Maine, Baxter State Park. Cette montagne-là, à un moment donné, dans les années 80, j'y allais tous les étés avec mes amis, là, on allait faire le Mont Katahdin.
Ah, OK, vous avez fait beaucoup
de... faire de la randonnée en montagne, ça, mm-hmm. ça m'a apporté beaucoup en termes de développement intérieur, je dirais. Oui.
Et sortir du Canada assez jeune aussi, là, tu sais.
Ben oui, mais j'ai pas été en Europe ben avant l'âge de quoi, 22, 23 ans, mais oui, j'étais au Pérou, là, j'étais en France là, quand je commençais à travailler. Là, ouais. Mais quand j'étais au collège, mais j'étais pas tout à fait fixé sur ce que je voulais faire dans la vie. Je voulais être avocat ou moi, je voulais être psychiatre, alors j'étais allé en sciences santé pour m'apercevoir que c'était pas ce que je voulais faire.
Pas votre tasse de thé.
Après ça, ouais, exact. Alors après ça, j'ai décidé que je voulais être avocat. Mais je suis rentré en sciences politiques à Concordia en janvier 79. Janvier 78, pardon. Puis j'ai fait un an et demi à Concordia, mais là, je peux pas dire que mon avenir était tracé devant moi. Un de mes collègues de collège, un ami, Guy Forget, qui est aujourd'hui décédé, m'a appelé un jour de septembre 79, je venais juste d'avoir 21 ans. Puis là, il m'a dit, mon frère lance un journal, veux-tu devenir journaliste?
Oh, OK.
Comme dans les films, là, vous êtes tranquille, vous êtes chez vous, il se passe rien, là, vous êtes encore chez vos parents, le téléphone sonne, vous prenez le téléphone, puis quelqu'un vous dit, ah, salut François, mon frère lance un journal, veux-tu être journaliste?
Et c'est tout qu'un projet qui tombe du ciel.
Ouais, ouais, alors je suis devenu journaliste.
OK.
J'ai lâché les études, je suis devenu journaliste. J'ai été journaliste financier pendant 4 ans. C'était vraiment une belle expérience. J'ai appris à sortir un peu des sentiers battus, à faire des choses nouvelles, à prendre l'avion, à aller à Toronto, à interviewer le PDG d'une grande société, à écrire un article, ainsi de suite. Alors ça, j'ai fait ça pendant 4 ans. J'ai appris beaucoup. Et puis, ça m'a amené à écrire. Ma mère était journaliste, alors c'était amusant. C'est resté dans la famille. Et maintenant, ma nièce est dramaturge.
Ah oui?
C'est partie de la famille. Ouais.
OK.
J'ai une nièce dramaturge, j'ai une nièce comédienne. Ma sœur était comédienne. Son mari a eu longtemps une compagnie de marionnettes qui faisait des spectacles à la fois pour les enfants et aussi pour les adultes. Mon frère aîné habite à Paris depuis 40 ans, puis un doctorat en histoire de la philosophie du droit. Mon deuxième frère était archéologue, mais après ça, il est allé travailler pour la Défense nationale. On a eu des cheminements que la rétinite n'a pas nécessairement freiné.
N'a pas freiné, mais oui.
Et donc, je suis devenu journaliste financier, puis j'ai été journaliste financier pendant 4 ans.
Mais ça, le domaine de la finance, c'était déjà...
Oui, voilà, parce que moi, quand je suis devenu journaliste financier, je ne connaissais absolument rien là-dedans.
Ah, ben voilà, c'était un peu comme ma question.
On m'a dit, mon frère est journaliste, Guy Forget m'a dit, mon frère est journaliste, mon frère lance un journal, veux-tu être journaliste? Je lui ai dit, OK, ben après ça, j'ai demandé, c'est un journal de quoi? Il m'a dit, c'est un journal de finance, mais Guy savait que j'aimais écrire, puis que j'étais à l'aise de le faire, puis que je m'intéressais à toutes sortes de choses. Il y a juste... Quand je suis devenu journaliste, ben là... J'ai fait mon cours de courtier en valeur mobilière pour connaître un peu mieux le domaine, tout en étant journaliste. Et puis, éventuellement, mais j'ai abandonné le journalisme pour être courtier en valeur mobilière.
Okay, pour
c'est un peu comme un journaliste sportif qui descendrait de la galerie de la presse qui irait sur le terrain.
Hein? Ben oui.
Voilà. Oh, ouais. Parce que souvent, les journalistes sportifs, c'est des anciens joueurs hein, qui, après leur carrière de joueur, deviennent journalistes ou commentateurs. Moi, c'est un peu comme si c'est le contraire, un peu. Là. C'est comme... Un commentateur sportif décidait de devenir sportif lui-même. Alors, au lieu d'être journaliste.
Ben, c'est comme si vous aviez découvert.
Je suis devenu financier. Au lieu d'être journaliste financier, je suis devenu financier. Point.
Vous avez découvert c'était quoi, puis ça vous a donné le goût.
Oui, j'aimais ça. En fait, j'ai aussi découvert qu'essentiellement être courtier en valeur mobilière, c'est connaître les gens, puis s'asseoir avec eux, puis d'essayer de les comprendre, puis d'avoir une idée de leurs besoins, puis de leur tolérance au risque, puis trouver des solutions pour eux. Là. C'est dans ce sens-là.
Il reste comme un côté...
Le mot conseiller, oui, est important.
Humain, là, puis de savoir...
Oui, tout à fait. De rencontrer des gens, puis d'apprendre à les connaître, exact. Ça, c'est comme...
Oui, j'avoue que ça peut bien combiner deux choses, deux domaines... quand même assez
il y a un domaine qui est rationnel, celui des chiffres,
ouais.
Savoir de quoi on parle. Puis l'autre, c'est de connaître les gens, puis de s'intéresser à eux, puis de vouloir que ça aille bien pour eux, puis travailler dans leurs intérêts. Là. Alors, il y a des gens qui ont été mes clients pendant 30 ans. Là. Alors, c'est sûr qu'on développe des liens de sympathie.
Oui, puis ceux-là, on finit par les connaître.
Oui, tout à fait, on les connaît très bien, parce que pour bien les aider dans leurs finances, il faut qu'ils me parlent de leurs affaires assez propres. De façon assez détaillée.
Assez détaillée.
Leur projet de vie, puis que je connaisse qu'est-ce qui les motive, puis qu'est-ce qu'ils veulent faire, puis leurs inquiétudes, ainsi de suite.
Puis
c'est sûr qu'on apprend à connaître les gens très bien.
Et sur 30 alors, ans, ben là, ça progresse.
Ben, j'ai commencé en 83 chez Nesbitt Thompson. Puis, j'ai arrêté en 2016. Alors, j'ai été journaliste, pas j'ai été journaliste, j'ai été conseiller financier pendant 33 ans. Alors, oui, j'ai rencontré probablement des milliers de personnes avec qui je me suis assis pour discuter de leurs affaires, oui.
Oui, puis vous avez voyagé aussi dans ce cadre-là, parce que je pense
que... Bien, comme journaliste financier, j'ai voyagé un peu. Comme courtier, ben j'étais pas mal partout au Canada. Après ça, j'ai voyagé parce que j'aimais voyager. Et ça, c'est plus à titre de loisir avec ma conjointe. Comme courtier, ben éventuellement, comme j'avais déjà fait des médias comme journaliste, ben je suis revenu un petit peu. Des fois, j'ai eu des époques où j'ai eu des chroniques au journal Le Devoir, j'ai eu une chronique au journal de Montréal, j'ai fait de la radio, j'ai fait de la télé. Alors j'ai toujours été un petit peu dans les médias en même temps. Et plus récemment, ben là, je me suis retrouvé chez Ami Télé.
Là. Mais là, c'est moins... C'est moins...
Canal M aussi, j'ai fait des chroniques. Là, ouais.
Oui. Mais c'est un peu moins un hasard, là, après tout ce que vous nous énumérez de...
Ben, c'est un peu normal. J'ai été journaliste par hasard. Mais après ça, je suis devenu financier, puis je suis resté un petit peu journaliste. Puis quand on est conseiller financier, une grande partie du travail consiste à expliquer aux gens quelle sorte de placement ils font, comment les choses fonctionnent, qu'est-ce que la fiscalité, comment leur situation va évoluer, quels sont les correctifs. Il faut expliquer aux gens pour faire la vulgarisation.
Ben oui, parce que ça peut...
Moi, pour que le plombier m'explique qu'est-ce qu'il est en train de faire en dessous du lavabo de cuisine, ben faut qu'il me l'explique d'une façon telle que je puisse comprendre. Alors, quand j'explique aux gens pourquoi leur REER devrait être investi de telle ou telle manière, ben faut que je l'explique d'une façon telle qu'ils comprennent bien. Puis, quand les gens comprennent l'orientation ou les choses qu'on leur propose, puis c'est clair pour eux, ben ils sont capables de vivre avec les aléas du marché. D'avoir confiance dans le processus. Mais évidemment, il faut que préalablement, je me sois fait une idée assez juste de leur tolérance au risque. Parce que c'est facile d'expliquer quelque chose théoriquement à quelqu'un alors qu'il n'y a pas d'argent encore en jeu. Là. Hein? Vous et moi, on peut parler du marché boursier, mais si vous ne perdez pas d'argent pendant notre conversation, vous n'aurez pas d'émotion.
Non, puis on peut en parler.
Voilà. Oui, on peut en parler comme on parle d'une ligue de... Donc, on fait un pool de hockey, là, hein?
Oui.
On peut dire, ah, moi, dans mon pool de hockey, je vais mettre Connor McDavid. Ah, ben moi, dans mon pool de hockey, je vais mettre Nate McKinnon ou Alexis Lafrenière. Bon, d'accord, c'est beau. Mais tant que vous n'êtes pas sur la glace, c'est pas pareil, hein? Alors, les gens, quand on leur demande, avez-vous une quelle est votre tolérance au risque? 80 fois, 8 fois sur 10, les gens répondent, ben, elle est moyenne. Ça veut rien dire, ça. Alors, en fait, la question, c'est, supposons que vous avez 100 000 $ aujourd'hui. Si dans un an d'ici, votre portefeuille baisse, jusqu'à quel niveau peut-il baisser sans que vous commenciez à perdre le sommeil, à paniquer et à remettre en doute tout ce que nous faisons?
C'est ça, la question, le fondamental.
Ben oui, parce que le risque, en fait, c'est perdre de l'argent. Le risque d'en gagner, il n'y a personne qui a de la misère.
Ben non.
Le risque d'en perdre, c'est là que ça va rejoindre des émotions. Qui sont pas de très bonnes conseillères. Et à ce moment-là, ben il faut que les gens disent, ben moi, si mon compte baisse à 90 000, là, j'aurais pas ça. Ah, OK, bon, faut pas que ça fasse plus que moins 10, OK. Ou quelqu'un qui dit, ah, ça monte, 175 000, ça me dérange pas, je vais en racheter plus. Bon, c'est correct, ça. Personne n'est plus tolérant. Mais aussi, il faut, parce qu'on peut faire une évaluation rationnelle de la situation de la personne, qu'elle nous décrive ses objectifs, on peut calculer, on peut quantifier combien d'argent est-ce qu'ils doivent épargner, à peu près à quel rendement, selon telle inflation. Alors, on peut faire un modèle très rationnel de leur planification financière, mais il faut aussi que ce modèle-là soit vivable, les gens soient capables de pas perdre, je dirais, le bon sens et la discipline qui sont nécessaires pour faire réaliser leurs objectifs. Et que si le marché descend trop vite et ils sont pas capables de vivre ça, ils deviennent perdre le sommeil, ils deviennent malades. Ben là, ça veut dire que même si rationnellement, voici ce qu'ils devraient faire, peut-être que subjectivement, ils sont incapables d'en assumer la volatilité. Alors, il ne faut pas insister. Alors, si les gens sont objectivement capables d'avoir un certain niveau de risque ou d'endurer une certaine volatilité, de l'accepter, ben ça se peut que subjectivement, ils ne soient pas capables de vivre avec ça. Alors, il faut respecter l'aspect subjectif et laisser faire l'aspect objectif et rationnel du plan. Alors, j'ai eu des clients qui, souvent, ont investi de façon qui était relativement plus prudente que ce qu'ils étaient, que ce qu'ils étaient, je dirais, supposés faire rationnellement.
Ils auraient pu se permettre.
Ils auraient pu prendre plus de risques, mais ils n'étaient pas capables de vivre avec. Alors, moi, je n'ai pas insisté. Je les ai laissés faire à l'intérieur de leur balise, puis on finit par comprendre à quel moment le client est pas bien, là. Ça s'entend dans sa voix, puis la façon qu'il communique avec nous. On sait que ça, c'est la limite. Si le marché va pas bien, faut pas qu'ils perdent plus que ça. Parce qu'ils vont être mal à l'aise. Puis ce qui arrive à ce moment-là, c'est qu'ils blâment le conseiller. Ça, c'est une réaction humaine normale. Puis ils changent de conseiller, puis ils vont avoir un autre. Mais évidemment, quand le nouveau conseiller va leur dire « Ah, avec moi, il n'y a pas de problème », puis ils recommencent le même manège. Alors, ils vont d'un conseiller à l'autre, puis ils sont jamais contents, puis ils perdent l'argent. Alors, là,
ils vont toujours avoir le...
Ben, ça ne marchera pas. Ils n'atteindront pas leurs objectifs dans de telles conditions. Ça,
c'est ça.
Évident. Donc, il faut être capable de comprendre le risque subjectif que la personne peut endurer. Puis, à partir de là, s'y conformer, même si le modèle indiquerait que rationnellement, il pourrait prendre plus. Il ne faut pas faire ça. Alors, ça a eu comme conséquence que j'ai eu des bonnes relations avec mes clients pas mal tout le temps dans ma carrière. Parce que mes clients, je ne les ai pas fait marcher sur des braises trop souvent, alors qu'ils ne le voulaient pas.
Il y avait comme une confiance.
J'étais plutôt conservateur. Ouais, j'étais plutôt conservateur. Moi, la bulle techno au début des années 2000, je ne croyais pas. Je n'investissais pas dans les technos. Alors, il y a bien des clients ou des investisseurs à ce moment-là qui me disaient hey, « Vous êtes niaiseux, vous ne comprenez pas, voyons donc, vous êtes passé à côté. » Je me souviens d'avoir participé à un séminaire ou une conférence où il y avait plusieurs présentateurs, j'étais un de ceux-là, devant un groupe d'investisseurs qui étaient des gens qui faisaient de l'investissement par eux-mêmes, ils ne passaient pas par des courtiers, ils investissaient directement sur le marché par des escompteurs. Et c'était, je pense, en 2000 ou 2002, puis là, c'était vraiment la grosse bulle sur Nasdaq, là, les titres montaient, là, sans vraiment de raison fondamentale, là, les entreprises qui faisaient pas d'argent, mais c'est pas grave, les titres montaient tout le temps, et je me souviens d'avoir fait une présentation où, là, je leur parlais de pourquoi ils devraient investir dans un titre de banque ou une entreprise qui était dans les produits de consommation, là, l'épicerie ou la production alimentaire. Puis, les gens, après ma présentation de 15 ou 20 minutes, dans la période de questions, je me faisais insulter, comme quoi j'étais vraiment là, archaïque, puis j'avais pas compris, puis que c'était terrible de vous donner des conseils pareils. Les gens ne font jamais d'argent avec moi.
Ah, oh, mon Dieu!
Disons que sans méchanceté, ça aurait été intéressant de les rencontrer 18 ou 24 mois plus tard, là.
Hein? Puis voir une différence.
Ça aurait été une autre paire de manches. Oui, voilà, exact. Alors, j'ai pas été au jour le jour un grand, ce qu'on appelle dans notre domaine un stock picker. Là, j'ai pas été un conseiller qui choisissait la perle rare. J'ai pas fait acheter du Microsoft à 5$ à mes clients en 1995. Là. Mais j'ai pas fait des trucs comme ça. Mais j'ai protégé le capital de mes clients davantage que plusieurs autres dans mon domaine, qui m'a valu d'avoir l'estime de mes clients la plupart du temps dans ma carrière. Dans ce sens-là, ben, j'en suis fier. J'ai fait une bonne pratique. J'ai pas mis beaucoup de monde à mal par le marché ou par leur placement. J'ai été plutôt conservateur. Si les gens me quittaient, c'était parce que j'étais dull. J'étais pas intéressant ou mes placements étaient trop pépères. C'est correct. S'ils me quittent parce que je ne leur fais pas faire d'argent, c'est bien moins pire que s'ils me quittent parce que je leur en ai fait perdre beaucoup. Hein? Oui.
Mm-hmm.
Et à la longue, les gens sont beaucoup plus sensibles à la douleur de la perte qu'au plaisir du gain. Et ça, c'est important de comprendre ça. La douleur, l'inconfort que vous allez ressentir à perdre de l'argent est une émotion beaucoup plus prononcée que le plaisir d'en gagner. la perte est deux fois plus douloureuse. Ça, c'est pas moi qui le prétends, c'est des études en psychologie, en behaviorisme, par rapport au rapport de l'humain avec l'argent là, ou avec les possessions matérielles. La perte est deux fois plus douloureuse que le gain. Il faut faire deux fois plus attention au risque subjectif ou à la tolérance au risque subjectif des clients qu'à absolument tenir à leur faire faire du 10 ou du 15 %. C'est pas le bon choix, ça.
Mais est-ce que vous diriez que dans la... Si on vulgarise un peu puis qu'on généralise aussi un peu, est-ce que les gens qui venaient vous voir qui étaient connaissants un peu en finance? Ou...
Mais ça dépend. Il y en avait qui ne l'étaient pas du tout, il y en avait qui l'étaient un peu, puis il y en a certains qui pensaient qu'ils l'étaient. Il y en avait d'autres qui connaissaient peu, mais qui étaient tous des gens intelligents, là, avec un peu d'explication. On se comprenait très vite. Là. Ça, c'est sûr. J'ai eu des clients qui étaient des analystes financiers agréés comme moi, puis qui étaient aussi calés en finance que moi, puis ils me faisaient confiance. Ça, c'était très flatteur. Puis d'autres personnes qui venaient de gagner à la loterie, puis qui, franchement, là, ils n'avaient jamais eu à administrer beaucoup plus que leur prochain chèque de paye. Alors, qu'il y avait donc des bonnes personnes, mais c'est juste qu'ils n'avaient aucune préconnaissance de ce sujet. Alors, j'ai rencontré des gens de tous les milieux, puis à différents moments dans leur vie financière. Les gens vont voir un conseiller parce qu'ils viennent d'hériter, ils viennent de recevoir le produit d'une assurance, ils viennent de vendre leur entreprise, ou bien ils sont nés dans une famille fortunée, puis c'est comme normal, ou bien ils ont des revenus élevés, donc ils accumulent. Il y a différentes raisons pour lesquelles les gens vont avoir du capital à investir. Puis, donc, ça fait que leur intérêt aussi, il y a des gens qui n'aiment pas les chiffres. Il y a des gens que dès que vous citez plus que deux chiffres dans la même phrase, ça les fait décrocher. Ils n'aiment vraiment pas ça.
Ça les ennuie.
Mm-hmm. Ça les ennuie ou bien ça les étourdit, je ne sais pas, mais il faut accepter ça, qu'il y a des gens dont ce n'est pas le tempérament. Puis il y en a d'autres qui sont très pointus et qui marchent à la troisième décimale. Ça, c'est OK. Il faut essayer de trouver de quelle manière on peut avoir un dialogue selon la personnalité, puis le degré de connaissance, le prix acquis que la personne a. Il faut juste se conformer. Puis à ce moment-là, on est capable d'établir un dialogue. C'est certain qu'il y a des personnes avec qui je me suis moins entendu, d'autres avec qui je me suis mieux entendu. Il y a une nature humaine aussi.
Puis sur une trentaine d'années, c'est normal aussi.
Sur une trentaine d'années, je vais vous dire que j'ai eu beaucoup plus de bonnes relations et que de mauvaises. Là, ça, c'est certain. Puis, je pense que j'ai eu une belle carrière et la confiance que mes clients m'ont portée m'a honoré. Puis j'ai fait de mon mieux pour être à la hauteur, là, tout à fait.
Mais là, j'aurais envie de vous demander, quand votre problème de vision s'est accentué, est-ce que ça vous a causé bien des...
Oui, bien, quand j'ai arrêté de conduire une auto, ça a commencé à être un peu rigolo. Parce que je me souviens une fois, en 88-89, dans ce coin-là, ça faisait pas très longtemps que j'avais arrêté de conduire. Moi, j'avais à avoir des clients. Dans ce domaine-là, il faut avoir de nouveaux clients. Là, on ne fait pas juste s'occuper de clients qui nous tombent du ciel. Là. Il faut... faire des démarches. Là. Il y a un aspect de ça qui est de la prospection. Là. Il faut se trouver des nouveaux clients. Il faut prendre le téléphone puis envoyer des lettres ou organiser des conférences pour augmenter sa clientèle. Puis, je me souviens qu'une fois, j'avais été capable d'obtenir d'obtenir une entrevue avec le directeur d'une usine dans l'ouest de la ville. Là, je me suis dit, bon, mais je vais aller le voir puis je vais lui parler de son fonds de pension puis tout ça. Puis il va peut-être devenir mon client. Mais c'était vraiment très loin, sur la Transcanadienne, là, près de Pointe-Claire ou dans ce coin-là. Et ma seule façon, moi, mon bureau est au centre-ville, alors j'ai pris le métro jusqu'à Côte-Vertu, puis à Côte-Vertu, j'ai pris l'autobus, là, je me souviens pas du numéro, là, 204 ou 214, je sais plus. En tout cas, alors, il fallait que je planifie mes déplacements parce que je prenais l'autobus ou le taxi. En fait, quand j'étais au début de ma carrière, comme j'avais pas beaucoup d'argent, je prenais l'autobus et le métro pour aller voir mes clients. Puis ça, c'est sûr que la fois que la dame... En tout cas, alors une fois, j'arrive à la réception d'une grande usine qui est sur la Transcanadienne à Pointe-Claire. Puis là, il n'y a vraiment personne qui n'a pas d'auto là, dans cet univers. Il n'y a même pas de trottoir dans les rues. Alors, je suis sur le bord d'une autoroute et j'arrive à pied.
C'est ça, c'est un coin qui s'y prête pas bien, bien, là.
Oui, parce que l'autobus qui était vraiment en bout de ligne, là, il arrêtait comme peut-être deux coins de rue en arrière de l'usine. Alors là, j'arrive à pied, puis là, je dis, est-ce que monsieur un tel est là? La réceptionniste dit, oui, il va vous recevoir. Puis, juste quand je me retourne, puis je m'en vais m'asseoir dans la salle d'attente, je l'entends qui chuchote en arrière, qui est arrivé à pied. Tu sais, en voulant dire, il vient d'où, lui? Il arrive de Mars ou, tu sais, c'est comme une sorte de messie, là, une sorte de Saint-Jean-Baptiste, là, qui est habillé avec une peau de mouton, là, quoi. C'est qui, ce gars-là? Alors, évidemment, j'ai perdu du temps, mais je me tapais des fois 40, 50 stations de métro dans la même journée pour faire que j'organise mes rendez-vous pour que si je vais voir quelqu'un en bicycle, ben, le prochain que je vais voir, il va être pas loin du métro Rosemont, là, puis je reprends le métro, puis le prochain, il va être au métro Sherbrooke, puis là, je reprends le métro, puis j'arrive à mon bureau au métro Bonaventure. C'est pas le fait. C'est vrai que j'organise mes affaires de cette façon-là.
Oui, de façon quand même assez logique.
Oui, oui. C'est parce que, à un moment donné, les limitations qu'on a, c'est parce qu'on se les crée, là. Bon, alors, voilà. Plus tard, mes affaires étant plus prospères, ben, au lieu de prendre le métro, je prenais le taxi, puis j'étais capable de me déplacer plus vite, là. Mais, oui. Et éventuellement, ce qui est arrivé, c'est que, quand ma vision commençait à se détériorer pour la peine, à fin des années 90, début des années 2000, mais moi, ça m'apparaissait assez évident qu'il fallait que j'aie des associés plus jeunes parce qu'un jour ou l'autre, je prendrais ma retraite parce que ma vision m'empêcherait. Je n'avais pas envie de me retrouver à devoir adapter mon poste de travail avec les logiciels qui existent comme Zoom, Text, et ainsi de suite. Parce que le domaine financier est un domaine où il y a beaucoup d'informations qu'il faut absorber très vite et pour nous permettre de poser un jugement là, très rapidement sur une situation.
Oui, puis la disposition que ça a, puis les chiffres.
Oui, exact. Puis une grande partie de cette information-là est vraiment pas en format adapté. Là, hein. C'est des textes avec plein de tableaux à gauche, à droite. Puis c'est pas facile à naviguer si vous voyez pas.
Ouais, plusieurs colonnes. Puis des...
Oui, beaucoup de colonnes, beaucoup de graphiques. Des fois, du texte qui est superposé à un graphique, ainsi de suite. Alors, de naviguer là-dedans, c'est pas facile. Puis là, on parle quand même du milieu des années 2000. Les logiciels n'étaient pas encore aussi au point qu'aujourd'hui. Puis moi, je me voyais, j'avais à ce moment-là une fin quarantaine. Je voyais ma soeur puis mes deux frères plus âgés que moi. Puis on a vu commencer à sérieusement décliner dans la cinquantaine. Alors, je me suis dit, éventuellement, je verrai plus clair ou je verrai trop mal pour être capable de fonctionner. Il va me falloir des aides technologiques. Puis, est-ce que ça va me tenter à 54, 56 ans, 58 ans d'adapter mon poste de travail, de m'habituer à travailler avec de nouveaux outils pendant que je suis dans le feu de l'action, là, puis j'ai un client au bout du fil là, qui veut savoir quoi faire. Puis là, je suis en train de cligner des yeux parce que je suis trop bloqué pour avoir un logiciel adapté ou mon Zoom Text fait des flamèches, là, puis je ne sais plus où je suis rendu.
C'est ça, ça réagit plus comme vous voulez.
Pendant ce temps-là, j'ai mon client au bout du fil qui attend que je lui dise comment investir son REER. Mais ça, c'est une situation que je viens de vous décrire, qui est une sorte de cauchemar que je ne voulais pas vivre.
C'est ça, ça ne vous tentait déjà pas de vous embarquer là-dedans.
Oui, ça ne me tentait pas de faire ça. De le faire quand je suis à la retraite et que j'ai des loisirs où j'ai moins de pression pour trouver tout de suite. Mais c'est autre chose. Alors, dès l'âge de 50 ans, j'avais comme décidé que j'allais prendre ma retraite vers 57, 58, puis que j'avais déjà discuté de ça avec mes associés plus jeunes, puis on a fait une lente transition vers une passation de la clientèle vers eux. Alors, ça s'est fait de cette façon-là, parce que dans mon esprit, c'était clair que lorsque ma vision serait trop mauvaise et que j'aurais besoin de logiciels adaptés, je n'y serais plus. J'aurais des logiciels adaptés à titre de personne à la retraite qui surfe sur le net ou qui fait des chroniques à amis ou des choses comme ça ou qui va à Canal M, mais qui n'a pas des
clients au téléphone qui attendent là, non, que vous avez du temps pour vous préparer.
Voilà,
pas
de pression pour immédiatement. Alors, ça me donnait l'occasion de m'adapter un peu plus à mon but. Alors, c'est ce que j'ai fait.
C'est ce qui s'est produit? Vous avez comme travaillé le plus que autant que vous avez pu? Puis quand
il y a d'autres choses qui sont arrivées. C'est que j'ai eu le cancer. Alors, ça m'a comme... comme une bonne raison d'arrêter. Oui, j'ai eu le cancer de la prostate. J'ai été diagnostiqué avec un cancer de la prostate en 2012. J'ai eu un cancer de la gorge en 2014. Ça a été pas mal. En fait, ça a comme peut-être qu'il était assez facile d'expliquer à mes clients que je prenais ma retraite. Là. À cause de la maladie, j'ai arrêté mes activités plutôt en 2015, alors que c'était plutôt 2016 qui était planifié. Mais okay. Franchement, ça a comme pas fait une grosse différence. Dans le temps, ça a peut-être devancé ma retraite de 12 mois, mais de toute façon, je m'en allais à la retraite. Mon opinion était déjà faite. Mon idée était déjà faite, puis c'était déjà tout structuré en conséquence.
C'est ça, penser comme ça.
Jeune. Mm-hmm. Oui, ça peut être. Ben, c'est sûr que vaincre le cancer une fois, c'est de l'ouvrage. De le vaincre une deuxième fois, c'en est aussi. Là. Alors, voilà.
Mais c'est un peu comme le corps qui décide plus. Là. Ben, oui, les yeux auraient décidé. Oui. Là, c'est autre chose.
Mais vous savez aussi, quand vous affrontez la maladie proche de même, là, c'est drôle le cancer parce que c'est drôle, c'est pas drôle. Mais ce qui est bizarre avec le cancer, c'est que quand ça dépend du type de cancer que vous avez, moi, dans les deux cas, je me sentais parfaitement bien. Puis là, suite à des examens, votre médecin vous dit ben, il y a quelque chose qui cloche. Là, on fait un peu plus d'examens, mais moi, je me sens pas mal. Là. Je suis super fort. Mm. Là, le médecin me dit ah, François, t'as le cancer de ceci ou t'as le cancer de cela. Là, c'est un peu comme ah, oui, comment ça?
Je fais pas mal.
Ça va bien, là. Mm-hmm. Oui, ça me fait pas mal. Puis là, malheureusement, le traitement pour guérir le cancer, lui, est douloureux ou invasif ou très très lourd.
Très difficile fait, sur le corps.
Tant mieux, c'est pas la maladie elle-même. Mm-hmm. C'est sûr que si je n'avais rien fait, la maladie aurait été elle-même très ennuyeuse et éventuellement mortelle. Alors, mais ce que je veux dire, c'est qu'au début d'un cancer, vous n'avez pas l'impression que vous êtes malade. Enfin, je connais d'autres personnes qui sont passées par là, ils ont vécu un peu la même chose. On n'a comme pas l'impression d'être malade. On fait juste nous annoncer une très, très mauvaise nouvelle. Puis là, il faut vous soigner. Puis ça presse. Puis les soins ne sont pas de la tarte. La chimio, la radiothérapie ou les chirurgies pour enlever des tumeurs, c'est moche. Voilà. Mais on en revient. Puis on apprécie aussi plus la vie. On apprend à moins se choquer pour rien. Ça ne veut pas dire que je suis encore sous peau lait des fois, là, mais je veux dire, on essaie de profiter un peu plus de la vie. On s'aperçoit que la vie est pas mal courte.
Puis qu'elle passe vite.
On est mieux de, oui, ça passe vite. On est mieux de faire des affaires plaisantes et de ne pas avoir de regrets. Si on fait quelque chose aussi, des choses dans le passé qui ne font pas notre affaire, faut pas rester dessus. Faut pas penser ailleurs. Penser à aujourd'hui, puis dans la perspective que demain existera. Mais il faut pas s'arrêter. Faut pas avoir de regrets. Il faut profiter de la vie. Il faut faire de son mieux. Là. C'est ça qui compte. C'est d'avoir le plaisir d'avoir fait de son mieux. La satisfaction d'avoir fait de son mieux. D'être optimiste sans être idiot. Là. De profiter de maintenant. Puis d'apprécier la compagnie des gens qu'on aime, qui nous sont proches. Ça, on apprend un petit peu plus ça que quand on est jeune, qu'on a 30 ou 40 ans. Là. Même dans la cinquantaine, qu'on est pétant de santé, on a l'impression que ça va toujours durer. Le cancer, ça nous dit non. Ça me fait penser, quand je faisais des planifications avec mes clients, quand on parlait de planification testamentaire, les gens me disent toujours si je meurs. Mais non, c'est pas si tu meurs, c'est quand tu meurs. Tu fais pas un testament si tu meurs. Tu fais pas un testament pour régler les affaires si tu meurs. Tu fais un testament pour régler tes affaires quand tu vas mourir.
C'est ça.
Et on a beaucoup de misère comme humain d'accepter que la vie est une quantité limitée. Là. Ça ne rentre pas dans la tête. Quand on est face à la maladie et qu'on s'aperçoit que notre espérance de vie peut ne pas être la même que tout le monde, puis là, on se dit ouais, mais on je suis mieux d'avoir du plaisir là, parce que l'été achève, façon de parler. Là. Hein? C'est ça. Alors, on apprend des choses en étant confronté à ça. Moi, de l'avoir eu une fois, j'ai appris un peu. De l'avoir eu une deuxième fois, j'ai appris un peu plus. Hein? Alors, voilà.
Mais oui. Quand vous avez pris le temps de vous soigner, de vous remettre, oui. Et après, vous avez fait ce que vous avez dit, vous avez plus profité, plus été...
Ben, plus profiter de la vie, plus prendre soin de soi. On fait attention un petit peu à ce qu'on mange, on fait de l'exercice. Mais j'ai toujours fait beaucoup d'exercices.
Oui, mais ça, il faut en parler de toute façon.
J'en fais encore plus parce que c'est le fun. Il y a des gens qui n'aiment pas faire d'exercice. Il y a des gens qui fatiguent quelqu'un de débat un peu puis qui sont en soif. Ils sont pas bien. Ils n'aiment pas ça, être en soif ou que le cœur aille vite. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça être en soif. J'aime ça le plaisir de l'endorphine après l'entraînement ou après un match. Le high qu'on a quand.
Ah oui, il y a la sueur, il y a le cœur, puis il y a la satisfaction.
Oui, exact. Ça, c'est le fun. Moi, j'aime ça. Jouer au hockey sonore. J'ai commencé à jouer au hockey sonore avec les Hiboux de Montréal en 2005. J'ai vu une annonce dans calendrier. J'étais à ce moment-là, j'étais impliqué à la Fondation des Aveugles du Québec. Puis, on avait un calendrier à gros chiffres là, que M. Jacques Taron fabriquait, mais il vendait des annonces, puis il voyait faire l'impression, puis après ça, il allait distribuer ça partout dans la communauté handicapée visuelle, M. Caron, qui lui-même a été le fondateur des Hiboux. Et dans le calendrier à gros chiffres de la Fondation, en 2004-2005, en fait, ça devrait être le calendrier 2006, parce que moi, je l'ai feuilleté en décembre 2005.
Ouais.
Puis là, il y avait une annonce qui était marquée « Aimez-vous jouer au hockey? Voulez-vous jouer au hockey? Vous êtes handicapé visuel? Appelez les Hiboux de Montréal, avec un numéro de téléphone. » Puis moi, j'ai joué au hockey quand j'étais jeune. Puis j'ai joué au hockey dans une ligue de garage quand j'étais voyant, quand j'étais dans la vingtaine, dans le temps que je conduisais encore, par exemple. Mais j'avais arrêté de jouer au hockey au début de la trentaine parce que je n'étais plus capable de suivre la rondelle. Puis pendant 17 ans, j'ai pas joué au hockey. À l'âge de 47 ans, en 2005, je vois cette annonce-là. Je dis, hey, c'est fun, c'est formidable. Peut-être que je devrais essayer. Peut-être qu'à ce moment-là, j'avais suffisamment intégré mon handicap comme quoi j'acceptais que j'étais handicapé visuel, puis que j'étais capable de vivre avec ça, puis de m'identifier en conséquence. Alors, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé, puis c'est M. Gilles Ouellet qui m'a répondu, Gilles, qui est le président des Hiboux.
Ben oui, Gilles.
Qui est toujours le président des Hiboux et qui est maintenant rendu un de mes meilleurs amis. Alors, vous voyez comment la vie est faite. Ma conjointe et moi, on est les parrains-marraines d'une des filles de Gilles.
Ah bon?
Et ouais, c'est fun. Enfin, alors j'appelle, puis là, je dis à Gilles que je ne connaissais pas. Je voudrais jouer au hockey. Est-ce que tu as un équipement? Je dis, ben, il me place un vieil équipement dans le garage. Là, j'ai des gages, des patins. On peut te prêter un équipement la première fois. Alors, j'ai joué au hockey sonore le mercredi 28 décembre 2005 pour la première fois. Et j'ai adoré ça. En fait, au début, les premiers matchs, j'avais adoré ça. Ça m'a pris quelques matchs pour me faire à l'idée que oui, c'est un peu dingue au début de penser qu'on est tous handicapés visuels et qu'on patine vraiment vite et qu'on peut se rentrer dedans. Mais si vous avez le sens du jeu le moindrement, là, puis si vous patinez raisonnablement bien, juste correct, là. Et vous apprenez à voir comment le jeu tourne d'abord, puis à ne pas être dans le trafic, bon, dans le mauvais sens. Là. Puis finalement, il n'y a pas tant de collisions que ça. Là. C'est pas dramatique.
C'est ça, on vient puis, qu'on le perçoit.
Plaisir... Oui, puis pour avoir du plaisir, en fait, il faut s'abandonner un peu. Là. Si tu arrêtes en plein milieu du jeu, puis tu dis, hey, ça n'a pas d'allure, tu dis, ben là, bang, quelqu'un va te rentrer.
C'est ça, ça ne marchera pas.
Normalement, tu devrais être en train de patiner, mais là, tu as décidé que tu étais un cône au milieu de la patinoire, ben. Le cône orange, il se fait renverser. Tu bouges. T'sais? Mais alors, je me suis aperçu après deux, trois matchs qu'il fallait que j'abandonne cette crainte, que si je me laissais aller dans le jeu, j'aurais du plaisir, puis en fait, ça devenait moins dangereux. Alors, je me suis impliqué dans les Hiboux, puis je me suis impliqué dans le hockey, parce qu'il y avait d'autres équipes de hockey à travers le Canada qui existaient, puis on a fait le pont avec ces équipes-là à Toronto, à Vancouver. J'ai rencontré Mark DeMontis, qui est un Torontois qui joue au hockey, qui avait traversé le Canada en patin à roues alignées pour amasser des fonds, pour créer un organisme qui faisait la promotion du sport du patin puis du hockey chez les jeunes handicapés visuels à travers le Canada. Puis le sport a grossi, puis aujourd'hui, le hockey sonore, il y a une douzaine de villes au Canada où il y a des programmes de hockey sonore.
Et quand même.
Il y en a une douzaine aux États-Unis. Il y a du hockey sonore en Finlande, en Suède, en Russie, en Grande-Bretagne. Il y a des gens en Australie qui veulent commencer quelque chose, ainsi de suite. Alors, il y a un cheminement du hockey sonore pour aller aux Paralympiques un jour, là, c'est clair. Et c'est excitant parce que je suis encore impliqué là-dedans de très près. Je joue au hockey avec les hiboux toutes les semaines. J'aide Gilles et Martin Dufour à l'organisation des hiboux. Je suis impliqué dans le Hockey Summer Canada, Canadian Blind Hockey, qui est l'organisation qui chapeaute le sport au Canada. L'hiver passé, avant que le confinement de la COVID soit instauré, j'étais en Finlande pour participer au premier camp de hockey summer en Finlande. Alors, j'ai passé un week-end avec des Finlandais à jouer au hockey. Et tout le monde sur la glace, à travers de la Gatineau ou du Stargardt ou du Lebert, là, on était tous à la même place, tous à la même adresse.
Mm-hmm.
Puis je me tiens, j'ai 62 ans maintenant. Alors, il faut que je sois en pas mal bonne forme pour mon groupe d'âge, si je veux suivre, là, parce que la plupart des joueurs sont plus jeunes que moi.
Mais je regardais un petit peu sur le site, là, je ne sais pas s'il est à jour complètement, mais ouais, ça, il y a quand même des jeunes,
On a des programmes avec des jeunes de tous les âges, là. Mm-hmm. Des programmes pour les enfants, pour les ados. Mais dans la population adulte de hockey sonore, il y a des gens qui ont 18 ans, puis il y en a d'autres qui ont 62, là, ou même un peu plus. Alors, il y a des gens de tout âge.
C'est extraordinaire.
Oui. Alors, j'ai eu l'occasion de jouer avec plein de gens à travers le Canada. J'ai joué au Canada, aux États-Unis, dans des tournois là, depuis une dizaine d'années. Là. J'étais à Chicago, Détroit, Buffalo, Washington, Pittsburgh, Vancouver, Edmonton, San Jose. J'ai voyagé beaucoup grâce au hockey. Puis, il y a deux ans, on a créé une équipe nationale de hockey sonore. Qui a affronté à quelques reprises une équipe nationale américaine de hockey sonore. Puis je me suis beaucoup entraîné, puis j'ai été capable d'être. Enfin, j'ai été sélectionné pour être sur l'équipe nationale en 2018, puis l'année dernière en 2019. Alors, quand les compétitions sportives reprendront, je veux certainement être sur la ligne de départ là, pour espérer être sélectionné à nouveau pour l'équipe nationale. Puis ça, c'est une grande motivation pour faire du sport puis m'entraîner. Puis je me suis fait un tas d'amis chez les Hiboux de Montréal, ça c'est sûr, mais aussi des amis à travers le Canada de par le sport. Le sport collectif comme le hockey, c'est pour des gens handicapés visuels, c'est vraiment super parce que quand on est handicapé visuel, on a tendance à s'isoler socialement, on a tendance à faire moins de sport, on a tendance à rester chez soi, là, puis à moins bouger. Alors ça, évidemment, ça amène toutes sortes de
problématiques
par rapport à la santé. Mm-hmm. Il y a des questions de diabète, d'obésité, ainsi de suite. Hein, que des gens, il faut bouger. À titre, n'importe quel être humain, handicapé visuel ou non, il faut bouger pour être en santé. En plus, on a tendance à s'isoler, mais là, d'être dans un sport d'équipe collaboratif comme le hockey, avec d'autres personnes handicapées visuelles, bien là, on tisse des liens, on rencontre des gens qui ont les mêmes problématiques que nous dans la vie quotidienne. C'est vraiment là, c'est beaucoup plus que du hockey, là, ça vient comme une thérapie de groupe positive. Alors ça, c'est aussi, ça a changé ma vie, ça c'est certain. Ça a été une des plus belles choses qui m'est arrivée depuis 15 ans, ça c'est sûr. Et j'ai juste l'intention que ça continue. Non, c'est pour ça que je m'entraîne 5 fois par semaine, parce que si j'arrête, je suis pas capable de repartir la machine. Alors, il faut pas que j'arrête, voilà.
Mais quelqu'un qui voudrait donc essayer ça, le hockey sonore, c'est...
Hockey sonore, appelez-nous, appelez les Hiboux de Montréal.
Il faut savoir 5-4, jouer au hockey, connaître le...
5-3. Ben, il faut être capable de patiner. Être capable de patiner. C'est ça l'idée. On a déjà eu des gens qui viennent jouer avec nous, puis on est heureux de les accueillir, mais dès qu'ils chaussent les patins, avant même que le match commence, dans la période de réchauffement, ils s'accrochent après la bande, puis ils sont pas capables d'arrêter, puis ils sont pas capables de virer.
Okay.
Ça marche pas, parce que là, c'est dangereux pour eux, puis c'est dangereux pour les autres.
Puis ils seront pas dans le jeu, là, tu sais, forcément.
Ben, ça marchera pas. Mais on va les encourager à aller à du patinage libre à leur aréna local, ainsi de suite, puis à s'améliorer. Puis il y a des joueurs qui sont venus nous voir, puis c'était pas encore tout à fait à point pour ce qui est du patinage, mais ils ont persévéré de leur côté, puis ils sont revenus par la suite. Ils étaient suffisamment habiles en patin qu'ils pouvaient faire un match de hockey.
C'est ça, ça peut fonctionner.
Oui, ça existe. Mm-hmm. Oh oui, ça peut fonctionner, certainement. Il y a des jeunes qui jouent avec nous aujourd'hui qui ont 16, 17 ans. Il y avait 8, 9 ans, puis ils voulaient jouer avec les hiboux. Ils ont mangé leur croûte, puis ils sont pratiqués à patiner.
Ah, mais c'était comme leur rêve d'enfance, puis ça s'est réalisé.
Ouais, voilà. Au lieu de dire, je vais être avec les Canadiens de Montréal, ben... dit, je vais être avec les hiboux, c'est super. Donc, c'est on peut pas... C'est, en fait, la question clé, si on demande à quelqu'un qui veut venir jouer au hockey avec nous, as-tu déjà joué au hockey? As-tu déjà patiné? Mais c'est sûr que si vous me dites, ben oui, j'ai déjà patiné, mais là, je vais vous demander, est-ce que vous avez des patins? Ben non. OK. Est-ce que tu les empruntes? Ben, la dernière fois que j'ai patiné, j'avais 12 ans, puis aujourd'hui, j'en ai, je sais pas, moi, 43. Ben là, si ça fait 30 ans que t'as pas patiné, puis t'as pas chaussé les patins, peut-être que ce serait une bonne chose.
D'aller t'exercer un peu.
Un peu, juste voir. Nous, on peut te prêter un équipement de joueur, mais... tu peux aller au Mille La Gauchetière, au centre-ville, là, ils ont une petite patinoire là, libre, puis ils louent des patins. Là. Allez là avec quelqu'un qui vous accompagne, vous louez des patins, puis pour commencer à patiner un peu, voir comment vous vous sentez. Faut pas décider qu'on n'est pas capable. Ça, c'est la pire chose. Faut essayer.
Et voilà. Là, j'aimerais qu'on passe au côté un peu médiatique, si on peut dire, là, artistique.
Ben, ouais, OK.
Ouais, parce que, tu sais, bon, vous avez dit, j'ai été journaliste, j'ai fait des chroniques à la télé, à la radio. Et là, comment que Ami Télé, Canal M, comment ça s'est réintégré dans. Ben, comment ça s'est intégré plutôt dans votre carrière de.
Ben, en fait, ce qui est arrivé, c'est que quand Ami Télé a été lancé, Philippe Lapointe, qui est un dirigeant de médias de télé depuis 30 ans, là, qui est très respecté dans le domaine, qui avait eu le mandat de la part de AMI, Accessible Media, de lancer la chaîne Ami Télé pour le marché francophone. Ben, je sais pas. Il a posé des questions, puis quelqu'un lui a dit « Ah, mais tu devrais parler à François Beauregard. Bon, » ben,
OK. Votre nom est arrivé, là.
Mon nom est arrivé, parce que j'avais déjà travaillé. J'ai été impliqué avec la Fondation des aveugles du Québec, puis à l'INCA, puis à d'autres organismes dans la communauté. Puis quelqu'un lui a suggéré « Ah oui, François, peut-être qu'il... Bon, » ils m'ont demandé d'être chroniqueur financier, parce que quelqu'un s'est dit « Ah, ouais, c'est quelqu'un qui fait de la finance, qui est handicapé visuel, alors peut-être qu'il peut remplir ce créneau-là. » Alors, ça fait déjà 6 ans, je fais une chronique à Ami Télé. Curieusement, ils ont aussi trouvé que je ferais peut-être quelqu'un au conseil d'administration. Alors, je suis aussi membre du conseil d'administration.
OK, d'accord.
D'Accessible aux médias. Comme j'étais membre du conseil d'administration de la firme de courtage pour laquelle je travaillais. Voilà, donc je fais une petite chronique à Ami Télé. À l'émission, ça me regarde à peu près une fois par mois. Puis, Luc Fortin, qui était pendant un moment à Ami Télé, avait aussi une émission à Canal M. Puis, il m'a demandé si je pouvais aller faire une chronique là. Alors, j'en ai fait quelques-unes, là aussi. Donc, voilà. Donc, de fil en aiguille, j'ai continué. Puis, faire des chroniques, puis être en onde, puis parler de sujets qui peuvent être pertinents pour des gens de notre communauté handicapée visuelle. Moi, ça, je trouve ça bien. J'ai du plaisir à faire ça.
Est-ce même que c'est vous qui trouvez les sujets?
Oui. Oui, la plupart du temps, c'est moi qui trouve les sujets. Des fois, les gens m'en proposent ou les recherchistes trouvent des choses dans les médias qui peuvent être un filon, puis on en discute. Là. Oui, tout à fait. À la plupart du temps, plus souvent qu'autrement, c'est moi qui trouve les sujets, mais des fois, bien souvent, on a fait des chroniques parce que quelqu'un d'autre dans l'équipe avait dit « Ah, ça serait peut-être un bon sujet », puis on fait un peu de recherche, puis on se prépare, puis on en parle. Voilà.
Donc, vous savez que vous avez à peu près une chronique par mois à faire, puis...
À peu près, oui. Oui, tout à fait. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas faire la chronique comme au fur et à mesure. C'est bon d'en avoir quelques-unes d'avance.
C'est là. Ça fait quand il y a d'autres idées.
Il ne faut pas vraiment être pris de dire, ah oui, c'est vrai, il faut que je fasse ma chronique, puis je ne sais pas de quoi je vais parler. Ça, c'est pas bon, ça. il faut en faire quelques-unes d'avance, puis au fur et à mesure qu'il y a un sujet qui nous semble intéressant, mais il faut commencer à le travailler mettre ça dans le tiroir et dire ben, un jour, ça fera peut-être une chronique. Là.
Effectivement.
Faut pas arriver à la dernière minute là, parce que là, vous attrapez la grippe ou il se passe quelque chose, vous n'avez pas le temps de travailler. Puis là, vous allez enregistrer la chronique demain. Là, ça ne marche pas si vous ne savez pas ce que vous allez dire.
Non, c'est ça. Mais en ayant comme des idées puis des suggestions.
Ouais, tout à fait. Puis Puis, en fait, les chroniques, on les prépare généralement quoi, 3-4 semaines d'avance. Puis,
okay.
On les soumet à l'équipe de production, puis ils nous disent oui, c'est bon. Puis, on prépare des notes qu'on donne aux animateurs, comme ça, ils savent, ils connaissent le sujet. Puis,
ils peuvent
poser les bonnes questions au bon moment. Puis,
c'est ça.
Tout à fait. Mm-hmm. En général, quand on fait une chronique qui dure 6 minutes et demie, on a du matériel pour 20 minutes.
Oh, OK, quand même.
Ben oui, parce qu'on ne sait pas.
Ben non, c'est sûr.
Il faut connaître suffisamment bien son sujet qu'on soit capable d'en parler pour plus que 6 minutes. Là.
C'est sûr, mais c'est comme 3 fois plus, quasiment 3.
Oui, oui. Quasiment... En fait, il faut qu'à la fin de chaque, à la fin de la chronique, il faut se dire, ben, j'aimerais parler de ceci, cela, j'ai pas eu le temps. Ou il faut se dire, voici à peu près 10 choses à dire à ce sujet-là. Quelles sont les 4 ou 5 que je veux absolument, que j'aimerais vraiment aborder parce que ça me semble être les plus pertinentes. Et après ça, bon, on en a 4 ou 5 qui sont moins pertinentes, mais si on a du temps, on en parlera.
C'est ça.
Il faut mettre ça un peu en ordre dans sa tête.
Mm-hmm. Puis ça, j'imagine que ça ne vous stresse pas. La journée de l'enregistrement, c'est pas mal fait, c'est pas mal comment dire.
Ben, je suis pas stressé, non. Mm-hmm. Je dois vous dire que je ne suis pas stressé devant un micro, devant une caméra, parce que je l'ai fait souvent. Puis j'aime ça. J'ai du plaisir à le faire. Là. J'allais dire, j'ai pas vraiment de mérite, puis c'est comme ça depuis que je suis jeune. Mais parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens pour qui te parler en public, c'est vraiment stressant. Ou de prendre le micro puis d'être en direct ou quoi que ce soit. Ils sont très intelligents puis ils s'expriment très bien. Mais dès qu'ils ont comme l'impression qu'ils sont écoutés par plus que 5 personnes, ça les fige. Ça, c'est triste. Mais moi, ça c'est simplement que ça ne me dérange pas, même que j'aime ça. Alors, voilà. Mais il ne faut pas non plus s'enfiler la tête et penser comme on est plus fin que les autres juste parce qu'on aime ça parler en public. Là.
Non, mais ça n'en prend quand même des gens qui sont capables.
Ben oui, parce que sinon, ce serait pas mal dans la... Ce serait pas très intéressant de regarder la télé s'il n'y avait personne.
C'est ça.
Écouter la radio si personne ne parlait. Il faut que quelques-uns d'entre nous se sacrifions là, pour prendre le crachoir. Mais non, sans blague, c'est ça. Ça donne comme ça. Quand j'étais en secondaire 1, on devait chacun préparer un petit quelque chose pendant 5 minutes devant la classe. Puis moi, j'avais préparé un sujet que j'avais beaucoup aimé. Le professeur m'a dit, bon, M. Beauregard, François, là, je suis allé devant ma classe. J'étais en secondaire, hein, là, j'avais mes petits feuilles dans ma main. J'étais devant tous mes collègues de classe. Le professeur était dans le front. Je commence à parler. Puis après, j'aimais ce dont je parlais. Puis j'étais animé, puis j'avais du plaisir. Puis mes camarades de classe étaient intéressés. Puis là, à un moment donné, je regardais l'horloge. Le professeur, dans le fond, il me faisait des signes en disant continue.
OK.
Puis j'ai fait une demi-heure.
C'est ça, il ne vous disait pas d'arrêter, il vous disait de continuer.
Non, il me disait de continuer. Alors, au lieu de faire 5 minutes, j'ai fait une demi-heure.
Hey! Alors, ça, je le sais par expérience.
J'ai eu une bonne note. J'ai eu une bonne note.
Ben là, j'espère quand même.
Ah, oui, j'espère. Oui, c'est ça. Non, ça a bien été. Alors là, je me suis dit, hey, j'aime ça être en avant puis parler.
Parce qu'il y en a qui détestaient ça, c'est sûr.
T'sais. Oui, je sais.
Puis là, ben au moins de donner de donner l'exemple que ça se fait, parler de 30 minutes.
Ah oui.
Même si c'était 5 minutes qui étaient prévues.
Oui, l'idée, c'est de parler plus lentement qu'on pense. Il ne faut pas parler trop vite.
Non.
Puis, il faut s'adresser aux gens comme si c'était des oncles ou des tantes.
OK, des gens proches, comme plus proches de notre
mais,
famille.
Avec qui on est respectueux. Là.
Mm-hmm.
On ne parle pas aux gens comme si c'était notre petit frère, puis on a 8 ans, puis mon petit frère, il y en a 5. Là, puis...
Ouais, ouais, plus que... Les gens plus âgés que ça, là.
Je vais être en bas de l'escalier, là. Mm-hmm. Ou je le tasse parce que je vais avoir la meilleure place devant la télé, non. Puis, c'est pas comme si on parlait à nos parents. C'est un peu comme si on parlait à notre tante et à notre oncle.
OK, mais c'est un bon truc.
Quelqu'un qu'on respecte, mm-hmm. avec qui on a un lien chaleureux, mais avec qui il y a quand même juste une distance qui est saine. Puis, il y a un lien qui est chaleureux et respectueux à la fois. Puis, avoir un niveau de langage adéquat parce que c'est comme ça qu'on s'adresse aux gens de notre famille, là, qui sont un peu plus âgés que nous. Voilà. Moi, je pense que c'est comme ça que ça marche. Puis on leur parle comme si on parlait à 1 ou 2 ou 3 personnes, pas plus.
Ça ne donne rien que ce soit plus, là, de toute façon.
Il ne faut pas commencer à dire, ah oh, mon Dieu, il y en a 125 000.
On est devant une foule, on est devant le...
Ça ne sert à rien de faire ça. 125 000, c'est abstrait, de toute façon. Alors. Et... Non, c'est ça. Il faut s'adresser aux gens de calmement. Voilà, c'est tout.
Avez-vous, est-ce que vous trouvez différent par faire la télé puis parler à la radio?
La télé, c'est différent, oui, parce que la télé, il faut savoir de quel caméra qui roule pour regarder du bon côté. Là. Mais ça, les gens à télé, ils vont vous le dire, puis ils vont être gentils de vous dire tournez-vous à gauche, tournez-vous à droite. Ou si l'animateur, l'animatrice, Véronique Vézina ou Kevin Breton parle, ben c'est sûr, je me retourne puis je les regarde. Il faut savoir, OK, il ne faut pas que je mette mes mains là, ou ainsi de suite. Et ça, les gens qui sont dans le studio, ils vous aident à vous placer, puis à ne pas faire de folie. Et dans ce sens-là, c'est bien. Ouais.
Il y a plus de détails à la télé.
Il y a un petit peu plus de détails parce qu'il faut faire attention à ses gestes puis et respecter l'angle de caméra. Là. À la radio, c'est plus libre parce que là, c'est juste le son qui est plus facile dans ce sens-là. Oui. Mais on a l'impression à la radio comme la seule chose avec le seul lien de communication, c'est par la voix. Ben, ça semble plus important de parler au bon rythme, de ne pas être, de faire trop de « e », comme je viens d'en faire un, et de ne pas laisser silence, d'avoir, mais en même temps d'être reposant, là, pas être trop vite, parce que c'est la seule chose qu'on a, là, c'est le son.
C'est le son.
C'est sûr qu'à la télé, beaucoup des gens, une bonne partie des gens qui écoutent la télé voient une télé qui est destinée aux personnes handicapées visuelles ou aveugles complètement. Alors, c'est un peu comme de la radio jusqu'à un certain point, parce que c'est la voix qui compte plus que l'image. Mais aussi, une image, il faut être capable de la décrire. On peut dire, bien, voici, on parle de tel sujet, puis maintenant, à l'écran apparaît une photo ou un portrait de telle personne pour faire de la vidéo description. Mais à la radio, c'est un peu la même chose, parce que là, il n'y a pas d'image à décrire. Alors, il faut comme inventer nos images et expliquer les choses calmement, mais... J'ai passé 33 ans à parler de finances, de concepts abstraits à des gens qui ne connaissaient pas grand-chose souvent. Alors, c'est un petit peu la même chose.
Donc, trouver des images...
Oui, bien, il faut respecter être ignorant et être idiot, c'est pas la même chose. Ignorant, c'est un truc qui s'arrange parce qu'on a juste besoin d'apprendre.
De connaissances, puis d'apprendre.
De ne pas avoir un esprit qui
fermé à...
C'est un esprit fermé, puis on a décidé qu'on avait que c'était ça, puis c'était pas l'autre. Être fermé, avoir l'esprit fermé, là, c'est pas la même chose. Quelqu'un qui est ignorant, on a juste besoin de l'informer, puis il va apprendre à connaître. Quelqu'un peut avoir des problèmes cognitifs, puis il faut à ce moment-là comprendre de quelle manière on peut mieux communiquer les choses qu'on veut communiquer. Mais tant qu'il y a de la bonne volonté des deux côtés, ça marche. Hein. Des fois, on rencontre des gens qui sont tout simplement crampés dans leurs idées, puis ils bouffront pas, puis ils sont un peu... J'ai déjà eu des clients dans mon bureau là, qui étaient assis dans le fond de la chaise, les bras croisés, là, puis ils regardaient de travers. Bon, ben là, ça commence mal la discussion, c'est sûr. Hein?
C'est ça, c'est pas ouvert à une discussion.
Ouais, là, c'est autre chose. C'est ça. Peut-être que... On devrait juste pas être là. Mais la télé, c'est pas comme ça, ça marche pas la radio. Il y a un petit peu de différence. À la radio, je vais vous dire la différence la plus sotte, c'est qu'à la radio, on peut s'habiller comme on veut.
Oui. Est-ce qu'ils vous fournissent des vêtements à mi-télé pour.
Non, c'est mes vêtements. C'est pour ça que c'est toujours les mêmes. Non, à la radio, on n'est pas obligé de se raser.
Il n'y a pas de maquillage, il n'y a rien. Là, y a
non, pas de... Le maquillage, c'est, on n'est pas habitué, c'est chaud un peu, là, puis un peu, ça picote. Mais c'est ça. La radio, le bon côté, c'est qu'on peut être habillé comme on veut. Alors, ça, c'est bien. C'est plus relax dans ce sens-là. Mais ce n'est pas parce qu'on est habillé relax qu'il ne faut pas être rigoureux.
Hein? Non, c'est ça. Ce n'est pas dans les propos, c'est dans le, la tenue vestimentaire.
C'est pas la même chose.
Et je pense qu'on a apporté plein de choses importantes aujourd'hui. Oui.
Je vous remercie.
Des thèmes, des pistes de réflexion, je dirais même, pour ceux qui en cherchent puis qui veulent peut-être améliorer leur qualité de vie, je dirais. Et je pense que vous l'avez dit, hein, souvent.
Il y a vous savez, j'ai un tas de défauts, là, puis il y a plein de choses que je ne fais pas bien et que je devrais faire. Là. J'ai pas une recette, je suis pas assez.
Non.
Un petit bonhomme en haut d'une montagne, là. Non.
Probablement pas, mais sauf que vous avez dit une chose importante, puis je le dis souvent aussi, tu sais, il y a beaucoup de non-voyants qui ont tendance à s'isoler, puis il faut pas, oui. Il faut trouver quelque chose.
Il faut pas s'isoler, il faut sortir de chez soi. Moi, ce qui me frappe le plus, ce que je trouve le plus malheureux, c'est, vous savez, il y a presque 19% de la population canadienne qui est handicapée, hein.
C'est quand même beaucoup.
Situation handicap, oui, mais on ne penserait pas ça parce que on n'est pas dans la rue, on n'est pas au resto. Mais là, oubliez le confinement, là, je parle dans une situation normale.
Ouais.
Pour toutes sortes de raisons, on est chez nous, parce qu'on nous garde chez nous, mais aussi parce qu'on se garde soi-même chez nous.
Je pense qu'en partant, oui, c'est soi-même.
Oui, exact. Moi j'avais vu une fois une émission, ça fait longtemps, là, ça fait peut-être 20 ans. J'avais vu un reportage à la télévision, au Canal Z ou quelque chose comme ça. C'était un reportage britannique. Je n'ai jamais été capable de le retrouver. On voyait un père qui élevait sa fille seule. Sa fille avait été brûlée, là, mais terriblement au troisième degré. Là. Et sa pauvre petite fille, qui avait peut-être 5-6 ans, là, elle était vraiment défigurée. Il lui manquait un bout de pied, un bout de main. Là. Elle avait littéralement flambé dans un incendie. Elle avait été sauvé in extremis. Alors, cette petite fille-là, là, vraiment mal en point, là, malgré les soins, son visage n'était plus le visage d'une petite fille. Là. Son visage était terrible, là, déformé, tout ça. Puis, elle boitait, puis elle avait une main qui lui manquait, qui avait littéralement brûlé, là, imaginez la douleur. En tout cas, puis elle était de bonne humeur, puis elle avait du plaisir. On la voyait dans le reportage, elle était dans la cour avec son père, on l'entendait qu'il jouait au ballon, et tout ça. Là, elle avait un plaisir infini à faire des choses très simples. Puis toutes les limitations qu'on pouvait imaginer qu'elle avait, puis si un jour elle allait probablement peser lourd dans sa vie, là, ce n'est pas évident pour cette fille-là de devenir adolescente puis passer à l'âge adulte. Et là, dans cette c'était simple, elle avait du plaisir. Je me souviens d'avoir, quand j'ai vu que j'ai entendu ce reportage-là à la télé, là, je me suis dit, François, là, arrête, t'as pas à te plaindre, là. Puis c'est toi qui vas décider qu'est-ce que tu peux pas faire. Puis ça m'a beaucoup aidé.
Faut pas laisser les autres décider.
Non, il faut
essayer des choses.
Les limites, c'est moi qui décide où est-ce qu'ils sont.
C'est nos propres limites, ouais. À nous.
Mm-hmm. Oui, puis des fois, on les met là où est-ce qu'ils n'existent pas. Là. Puis on pourrait pousser plus loin, puis on s'apercevrait que c'est des limites en carton. Là. On peut aller plus loin. Je ne parle pas de dire, ah oui, je vais conduire une auto, puis je vais tuer du monde.
Il faut demeurer réaliste.
Il ne faut pas être irresponsable, mais ce que je veux dire, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire.
Qui sont à notre portée.
La chose qui nous empêche, c'est d'essayer. Mm-hmm. On a juste besoin d'essayer. Mais cette petite fille-là, je repense encore, là, puis... Je vous dis, j'ai vu ce reportage-là il y a peut-être 20 ans à la télé. Mais je ne sais pas, dans mon esprit, c'est très, très clair.
Puis il paraît que les blessures causées par les brûlures,
c'est terrible. C'est terriblement douloureux. Oui, ça, c'est affreux, ça. Mais en tout cas, elle ne se regarde pas dans le miroir en disant « Ah, ça ne marche pas, mon affaire. »
Non, elle a quand même une joie de vivre.
Elle dit, moi, je vais aller jouer dehors, puis j'ai du plaisir. Alors, je pense qu'il faut avoir la même attitude.
Je pense qu'on a moins de raisons de ne
pas rien avoir. Pour ça. Puis le fait d'avoir été malade dans ma vie, ça m'a aidé aussi à acquérir ce bonheur du moment présent et essayer de ne pas trop me projeter dans le temps.
Et de profiter.
Et de ne pas avoir de regret en arrière non plus. Mm-hmm. Pas dire, ah, pourquoi c'est moi? Pourquoi moi? Pourquoi pas l'autre? Non, regarde. Ça ne marche pas de même. La situation est ce qu'elle est. Alors, profitons-en. Puis, je vais vous donner en ce moment, je suis en train de lire la biographie de Franklin Delano Roosevelt.
OK.
Qui est le président américain qui a marqué le 20e siècle. Là.
Oui.
Qui était handicapé. Il y a eu la polio à la fin de la trentaine. Puis, les 25 années de sa vie, il n'était pas capable de marcher. ça ne l'a pas empêché d'être élu 4 fois président des États-Unis. Et puis, il disait aux gens, si mes jambes me donnent du lait plutôt que du jus d'orange, ben, je vais apprendre à aimer le lait. Okay? C'est ça. Si on a... C'est ça. Il a dit, si mes jambes me donnent du lait plutôt que du jus d'orange, ben, je vais apprendre à aimer le lait. Alors, si c'est ça que j'ai, là, ben, je vais vivre avec.
On va vivre comme, avec ça.
On va en profiter, puis on va apprécier ce que ça nous donne. Hein. Plutôt que de maugréer sur ce que ça nous donne pas. Hein.
Mais on aura eu des phrases pour, justement, réfléchir jusqu'à la fin.
Ouais, tout à fait.
Ben, je vous laisse là-dessus. Ça a été une très belle entrevue.
Ben, c'est très gentil. Merci beaucoup.
Ben, un immense merci.
Merci beaucoup, Martin. Bonne soirée.
Bye. Au revoir.
Vous venez d'écouter Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Collaborateur bénévole. Montage, Frédéric Gauthier. Mise en ligne, Stéphanie Carrasco. Musique, Stéphane Pilon. Présentatrice, Katia Darèche. Un immense merci à l'Association des aveugles de la Rive-Sud, AARS, ainsi qu'aux autres entreprises et organismes de nous prêter des locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. Pour connaître les dates de nos prochaines émissions, ainsi que nos invités à venir, nous vous invitons à vous abonner à notre infolettre et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous faire part de vos questions, commentaires et suggestions en passant par notre site Internet au www.martinchouinard.com. Avant de vous quitter, il est important de vous rappeler que les opinions émises par les invités entendus à cette émission leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. À la prochaine!